Vous écoutez France Culture, il est 8h et c'est le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Au Mali, c'est désormais l'attente. Après le deuxième tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée hier dans un climat morose, la collecte des résultats prendra plusieurs jours, sans toutefois le moindre suspense à attendre et dans une certaine indifférence, comme on a pu le constater hier dans la fréquentation plutôt faible des bureaux de vote. Marie Matigo nous attend à Bamako.
En Afghanistan, la ville de Rani, toujours théâtre de combats meurtriers entre les talibans à l'offensive et les forces de sécurité. Correspondance à suivre de Sonia Ghezali.
L'ancienne présidente Argentine, Cristina Kirchner a rendez-vous avec la justice aujourd'hui. Pendant son mandat, de nombreux fonctionnaires et hommes d'affaires du pays sont soupçonnés d'avoir profité d'un vaste système de corruption. Explication à suivre de Caroline Vic.
L'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, voit la hausse du prix du baril de pétrole comme structurelle, ce qui redessine la carte des sites d'exploitation et ce qui relance, Claire Nouvian, ça va vous intéresser, la mer du Nord.
En fin de journal, un hommage à Nino Ferrer et un crochet par le beau département du Lot où a vécu Nino Ferrer, disparu il y a tout juste 20 ans aujourd'hui. Au Mali donc, l'attente des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle ne s'annonce pas des plus palpitantes. Les autorités du pays ont jusqu'à vendredi pour publier les résultats. Mais c'est bien le sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui reste le favori. Son avance au premier tour ayant été déterminante et aucun sursaut de mobilisation ne s'étant produit hier. Bonjour Marie Matigo.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako pour France Culture et c'est bien une journée de vote morose à laquelle vous avez assisté. Morose mais relativement calme.
Alors globalement sans incident, hein, selon un tweet du gouvernement malien, hormis un cas dramatique dans la région de Tombouctou où un président de bureau de vote a été tué par des terroristes présumés. Il y a eu tout de même d'autres violences, principalement dans le centre, comme des agents électoraux frappés, des électeurs intimidés, des urnes volées. Mais selon les autorités, ce second tour s'est déroulé dans de meilleures conditions que le premier. L'autre enjeu, c'était la participation. Et là, comme on s'y attendait, on n'a pas vu beaucoup d'affluence hier. Dans le bureau de vote où je me trouvais, à l'heure du dépouillement, il y avait 2 fois moins de voix que lors du premier tour. Plusieurs explications à cela, hein. L'insécurité évidemment, les intempéries aussi, et puis le désintérêt pour ce scrutin qui donnait le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ultra favori.
Alors Marie, c'est maintenant l'heure de l'attente au Mali et la semaine qui s'ouvre s'annonce administrativement laborieuse.
Eh bien, le dépouillement est désormais terminé. Chaque procès-verbal est en train d'être acheminé vers des commissions locales de centralisation des résultats, puis ensuite vers la commission nationale. Et c'est pourquoi d'ailleurs les autorités ont jusqu'à vendredi pour publier les résultats, parce qu'il faut que tous les PV arrivent physiquement à Bamako, ce qui évidemment va prendre du temps. Pour plus de transparence, la majorité, l'opposition et les missions électorales font partie de toutes ces commissions. Le ministère de l'administration territoriale va donc ensuite publier des résultats provisoires. Les candidats auront alors 48 heures pour déposer des recours s'ils le souhaitent. Puis ce sera à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur les résultats définitifs. L'investiture du futur président malien est ensuite prévue pour le 4 septembre prochain.
Merci Marie Matigo, correspondante de France Culture au Mali.
Les combats se poursuivent à Razni, ville située à 200 km au sud de Kaboul en Afghanistan. Ils opposent les forces de sécurité aux talibans engagés dans leur traditionnelle offensive de printemps.
Et le carrefour stratégique au centre duquel se trouve la ville de Razni semble être un des objectifs prioritaires des talibans. Au quatrième jour de combat, on parle déjà de plusieurs dizaines de morts dans la ville, même si l'information est difficile à confirmer en raison de l'isolement de Razni. Ce qui donne plus de relief encore à la guerre de communication que se livrent le gouvernement afghan et les talibans. La correspondance depuis Kaboul de Sonia Ghezali de RFI.
Il est difficile de s'approvisionner en nourriture et en eau, s'alarme des responsables locaux de Razni. Depuis 4 jours, la ville est coupée du reste du pays. Elle n'est plus alimentée en électricité et un seul opérateur téléphonique semble couvrir par endroit la capitale provinciale, située sur un axe routier stratégique et essentiel qui relie le sud du pays à Kaboul. Si le gouvernement afghan et l'OTAN n'interviennent pas, on est au bord d'une catastrophe humanitaire, prévient le chef adjoint du conseil provincial. Sur les réseaux sociaux, les messages inquiets de personnes ayant plus de nouvelles de leur famille vivant à Razni se multiplient. Certains responsables affirment que les renforts militaires en route pour Hazni ont été pris en embuscade par les talibans. Les autorités afghanes, elles, continuent d'affirmer que les insurgés ne contrôlent aucun bâtiment officiel, mais qu'ils se sont cachés chez les habitants. Faux, réplique un responsable local, selon qui seul le QG de la police, le bureau du gouverneur et quelques départements publics sont encore contrôlés par le gouvernement.
Sonia Ghezali. En Argentine, l'ancienne présidente Cristina Kirchner a rendez-vous avec le juge aujourd'hui. C'est l'affaire de corruption dite des cahiers qui lui vaut cette convocation. Un nom inspiré par les cahiers sur lesquels un témoin de transfert d'argent a consigné tout ce qu'il a vu pendant des années. Le ministre de la planification du gouvernement Kirchner est soupçonné d'être au centre de cette gigantesque affaire qui porte sur plus d'une centaine de millions de dollars, impliquant de nombreux fonctionnaires et chefs d'entreprise. À Buenos Aires, Caroline Vic.
Il s'agit d'une drôle d'affaire, aux origines douteuses, aux intentions suspectes et aux conséquences qui pourraient coûter à Cristina Kirchner sa carrière politique. L'ex-chef de l'État se présentera aujourd'hui face au juge Bonadio et au procureur Stornelli, tous deux bien connus pour être d'ultra-anti-kirchneristes et qui se sont attribués eux-mêmes cette affaire. Cristina Kirchner a déjà annoncé qu'elle ne répondrait à aucune question et qu'elle leur donnerait un texte dans lequel elle explique qu'elle n'a pas intégré ni dirigé d'associations illicites. Aujourd'hui, le juge demandera au Congrès de voter une levée de l'immunité de l'ex-présidente, actuellement sénatrice. Cette question devrait être traitée au Sénat dans les semaines à venir, mais beaucoup de parlementaires craignent une manipulation politique et attendent donc un procès ou une condamnation avant de se prononcer. Pour le moment, 15 entrepreneurs sont toujours en prison. 10, la plupart proches de la famille Macri, se sont repentis et ont pu négocier leur libération. Des chefs d'entreprise qui ont reconnu avoir reçu et versé des pots de vin à des fonctionnaires du ministère de la planification à l'époque des Kirchner. Mais pour le moment, aucune preuve de ces supposés transferts d'argent n'a été trouvée.
À Washington, rendez-vous complètement raté pour les néo-nazis et autres suprémacistes blancs qui avaient prévu de manifester pour commémorer à leur manière les événements de Charlottesville l'an dernier. Devant la Maison-Blanche hier, la quarantaine de manifestants a été submergée par les contre-manifestants qui étaient eux bien plus nombreux. Nouvelle séance de discussion et de pourparlers entre les deux Corées dans le village frontalier allié de Panmunjom aujourd'hui. Il s'agit de préparer un troisième sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader coréen Kim Jong-un. La question des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord sera au menu des discussions. Et à l'instant, la confirmation arrive en provenance d'une agence de presse sud-coréenne. Confirmation selon laquelle le prochain sommet entre les deux Corées aura lieu à Pyongyang. Reste à déterminer la date.
C'est un sujet que connaît bien Claire Nouvian, notre invitée ce matin, présidente de l'association Bloom, qui lutte pour protéger le milieu marin et en préserver sa résilience, l'exploitation des hydrocarbures, notamment dans les fonds marins. Benoît Bouscarel.
Et effectivement, les tendances et les perspectives de développement du marché pétrolier sont au sommaire du rapport mensuel de l'OPEP qui doit être rendu public aujourd'hui, où l'on parle donc évidemment de l'exploitation des fonds marins et où l'on apprend que la hausse constatée et continue du prix du baril va redessiner la carte des bassins pétroliers et va remettre la mer du Nord dans la liste des sites d'exploitation rentables, voire très rentables. Les explications de Maïwenn Bordron.
Première raison à ce regain d'intérêt des compagnies pétrolières, la rentabilité économique. Les coûts de production sont plus élevés dans ce bassin pétrolier qu'au Moyen-Orient, par exemple. Début 2016, le prix du baril était tombé sous les 30 dollars, ce qui décourageait les investissements d'exploration ou de forage dans cette région. Avec l'augmentation du prix du pétrole cette année, investir en mer du Nord devient donc rentable pour les compagnies pétrolières. Dernier exemple en date, le géant pétrolier BP qui a investi dans un champ d'hydrocarbures au large de l'Écosse. L'autre facteur qui explique l'attractivité de la mer du Nord, c'est l'absence de conflits géopolitiques dans cette région du monde. C'est ce qui fait même sa force par rapport à d'autres bassins pétroliers plus instables comme le Moyen-Orient. En termes de réserves pétrolières, par contre, impossible de rivaliser avec des régions comme le Golfe Persique au fort potentiel géologique. Mais dans l'ensemble, la mer du Nord reste très attractive. Les compagnies pétrolières devraient donc continuer à investir dans cette région dans les mois, voire dans les années qui viennent.
On reviendra sur ce sujet dans la suite des matins d'été avec Julie Gacon dans un instant. Un sommet à quatre pour l'avenir de la Syrie se tiendra dans un avenir proche, annonce ce matin, il y a quelques minutes, en provenance du ministère russe des Affaires étrangères, à l'aube d'une visite aujourd'hui de Sergueï Lavrov à Ankara, en Turquie. Le sommet sur la Syrie, dont la date précise reste à déterminer, réunira la France, l'Allemagne, la Russie et la Turquie. La Turquie qui s'apprête à vivre une nouvelle semaine économiquement difficile, le pouvoir en place tente par tous les moyens d'éviter la catastrophe qui s'annonce pour la livre turque. Vendredi dernier, déjà, elle a perdu près de 20% de sa valeur face au dollar et à l'euro. Hier, dans un énième discours, le président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau dénoncé un complot américain et a exclu une nouvelle fois de relever les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. De son côté, ce matin, le ministre des Finances, Berat Albayrak, annonce dans les colonnes du journal Hurriyet que toutes les mesures sont prêtes pour faire face à la crise et qu'elles seront annoncées aujourd'hui. Et puis, autre annonce, il y a quelques minutes, de la Banque Centrale de Turquie, qui annonce qu'elle fournira toute la liquidité nécessaire aux banques et qu'elle surveillera de près les marchés et les prix afin de prendre toute mesure propre à assurer la stabilité financière. Fin de citation. En Grèce, les nouvelles économiques semblent plus encourageantes depuis plusieurs mois. Le pays va sortir du plan d'aide du FMI en début de semaine prochaine et retrouver sa souveraineté sur les marchés. Et son taux de chômage est tombé en dessous de la barre psychologique des 20% pour la première fois depuis septembre 2011. Il est tout de même de 19,5% et il n'est pas du tout sûr que cette série de nouvelles moins mauvaises que d'habitude fasse sortir le pays de l'austérité. Annabelle Grelier.
Le 20 août prochain, la Grèce retrouvera sa souveraineté, a déjà plusieurs fois répété le Premier ministre Alexis Tsipras. En sortant du plan d'aide du FMI, le gouvernement grec s'apprête en effet à annoncer officiellement la sortie du pays de la période de crise. S'appuyant sur quelques indicateurs économiques quelque peu positifs, comme l'excédent budgétaire de 0,8%, un taux de croissance à 1,4% ou encore la baisse du taux de chômage de 2% en un an. Même s'il est vrai que la Grèce revient de loin, elle n'est malheureusement pas arrivé au bout de ses peines. Et cet enthousiasme est loin d'être partagé par les Grecs, tant les 8 années d'austérité ont affaibli le pays. La colère a souvent fait place à la résignation. Les salaires et les retraites ont été divisés par deux, les impôts ont explosé, une large partie du patrimoine public a été privatisée et près d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une pauvreté que veulent fuir les plus diplômés qui sont partis en masse à l'étranger. On estime à 400 000 le nombre de Grecs qui ont émigré depuis 2010. Une hémorragie pour un pays qui compte 10 millions d'habitants. En sortant du programme d'aide du FMI et de la zone euro à la fin août, la Grèce va pouvoir certes emprunter seule sur les marchés, mais Bruxelles ne lui lâchera pas pour autant la bride sur le cou. Elle restera sous sa surveillance rapprochée, car Bruxelles attend la poursuite des réformes, comme une nouvelle baisse des pensions de retraite prévue en 2019.
Il est 8h12, vous écoutez France Culture. Cela fait 20 ans aujourd'hui, Benoît Bouscarel, que le chanteur et artiste Nino Ferrer est mort.
Nino Ferrer qui aura marqué sa génération sans pour autant réussir la carrière éclatante qu'il aurait sans doute méritée. Et pour ne pas l'oublier, le village du Quercy Blanc qu'il a accueilli pendant une vingtaine d'années, Montcuq, va célébrer ce soir la mémoire de Nino Ferrer. Ce sera à 20h30 avec un concert hommage, mais le village accueille aussi 3 expositions des peintures de Nino Ferrer, reportage de Stéphane Iglesis.
C'est un endroit... Nino Ferrer, né Agostino Ferrari, avait choisi le Quercy Blanc en 1977. Il y a vécu 20 ans et s'est fait adopter par le village de Montcuq. José Marti est l'ancien facteur du village. Il est devenu ami avec Nino Ferrer.
Pendant 17 ans, j'ai rencontré Nino presque tous les matins. Oui, il fallait gagner sa confiance et vraiment, j'ai passé de bons moments. Quand j'ai fait l'inauguration de ma maison, je l'ai invité. Il est venu avec sa mère, sa femme. Figurez-vous qu'à minuit, on était 150 personnes. On est allé chercher la guitare et puis on a passé la moitié de la nuit à chanter toutes les chansons de Nino. C'est un artiste complet.
Pas moins de 3 expositions de peinture dans le village témoignent de la variété des productions de Nino Ferrer. Pierre Ferrari, l'un de ses fils.
L'art du dessin et de la peinture, ça a toujours été un à côté de sa création musicale. Il y a une sorte d'animalité qui ressort dans le dessin. C'est assez intéressant cette répétition. Il retravaillait comme il retravaillait ses morceaux non-stop, tout le temps. Il refaisait des versions. Ouais, il était totalement perfectionniste.
Audrey Rocaro, galeriste, a choisi avec la famille toutes les œuvres exposées.
C'est 24 autoportraits. Quand on les a donc installés, ça reste quand même troublant. On a ce regard qui est présent partout.
Même si vous ne trouvez pas de place pour le concert hommage de Montcuq ce soir, les expositions sont en place jusqu'au 28 août. Belle occasion de découvrir cette cité perchée du Lot.
Reportage de Stéphane Iglesis. Les œuvres des cinéastes sont des contre-pouvoirs essentiels. Dans une tribune publiée hier soir sur le site du journal Le Monde, de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture en appellent à la libération d'Oleg Sentsov. Ce cinéaste ukrainien est en grève de la faim dans sa prison russe. Depuis plus de 3 mois, il est emprisonné pour terrorisme. Parmi les signataires de cet appel publié par Le Monde, Jean-Luc Godard, Ken Loach ou encore Françoise Nyssen. On termine avec la météo, de la pluie et des orages parfois violents, notamment le long de la vallée du Rhône. Un temps instable à peu près partout. Voilà pour les prévisions de Météo France. 4 départements sont toujours d'ailleurs en vigilance orange pour les orages. Température maximale cet après-midi de 20 à 26 degrés sur la majeure partie du pays, avec une pointe à 31 degrés sur le long de la Méditerranée.